votre belle compagnie sur Radio Bulle 93.6, sa petite émission du lundi au vendredi entre 6h et 10h. Le lundi et le jeudi, on a les rendez-vous de l'auto avec Christophe Perroux. Bonjour Christophe.
Bonjour Samia.
C'est la première fois qu'on a une chronique sur l'automobile, sur Radio Bulle, en tout cas depuis que je suis là. Et avec Christophe, on finit toujours par philosopher, même à partir de la question de l'auto. C'est vous dire que nos chroniqueurs, quand même, on sait bien aller les chercher et les sélectionner. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une question presque philosophique qu'on se pose, Christophe. Alors, il ne faudra pas répondre ni par oui ni par non, comme dans une disserte de philo. Est-ce que les moteurs thermiques ont encore de l'avenir? Tu n'as pas 2 heures. Tu as une chronique pour nous répondre.
On va essayer de faire du contenu concis. Les moteurs thermiques ont de l'avenir, oui. C'est-à-dire, c'est que ça, on ne va pas tous les jeter. Et on ne va pas philosopher. Ouais. Le texte de loi a été voté par le Parlement européen le 8 juin 2022 en disant que 2035, on arrête les ventes de voitures neuves thermiques.
Ça, il reste 10 ans.
C'est tombé. Maintenant, il faut faire avec. Les moteurs thermiques, ils existent depuis quasiment toujours. Ils resteront, ceux qui sont en production et ceux qui sont sur le parc resteront. Il y aura toujours des passionnés qui les feront
poursuivre, vivre.
On arrive encore à faire tourner des coccinelles de 1950. Donc, on arrivera à faire tourner les moteurs thermiques. Par contre, sur le renouvellement des véhicules, clairement,
il n'y en aura plus.
Ça sera soit hydrogène, soit électrique, soit on a nos amis allemands qui sont en train de se fâcher tout rouge en disant, nous, écoutez, on développe une antenne de carburant de synthèse. Donc, c'est-à-dire, c'est qu'on ne va pas piocher des énergies fossiles, pétrole.
Ouais.
On ne va pas aller chercher ça, on va essayer de le faire différemment. Aujourd'hui, c'est en train d'investir. Alors, tout le monde regarde un peu par-dessus l'épaule en disant, mais qu'est-ce qu'ils font, mais pourquoi? Mais
bon. J'étais même pas au courant.
Si, ouais. Ils y bossent dessus, ça fonctionne.
Ouais.
Par contre, aujourd'hui, ce qu'il faut aller chercher, c'est un seuil de rentabilité. Si tout un chacun vous dit, ok, on arrive à trouver un carburant qui puisse passer entre les mailles du filet, par contre, c'est 15 euros le litre, on va dire, ok, merci, mais très peu pour moi. Voilà. Mais clairement, aujourd'hui, la directive européenne par rapport au réchauffement climatique et par rapport aux stratégies qui sont prises, elle est tombée. Et à moins que nos politiques fassent demi-tour, ce que je ne pense pas sur ce sujet-là, parce que c'est quand même un sujet lourd qui engendre d'énormes investissements.
Non, et puis de toute façon, c'est supranational. Quand l'Union européenne se prononce, on peut pas venir contrecarrer.
Exactement.
Donc bon, c'est gravé dans la roche, quoi.
Exactement. Donc on se dirige vers ça. Donc c'est comme le surfeur et sa vague. Est-ce qu'il vaut mieux surfer sur la vague ou est-ce qu'il vaut mieux la prendre sur le coin du nez parce qu'on n'est pas allé assez vite?
Ouais.
Donc aujourd'hui, il vaut mieux avoir surfé dessus. Donc en évitant de se dire c'est toujours mieux avant, se dire vers quoi on va et essayer de se diriger pour être le mieux servi et le plus en connaissance possible de ce qui va nous arriver. Donc, pays nordiques, sur l'hydrogène, clairement, on met le paquet. Il y a un véhicule, un Toyota, qui roule, qui n'est pas encore arrivé chez nous.
D'accord.
Pour quelles raisons, je ne sais pas, mais qui n'est pas encore arrivé chez nous. Nous, aujourd'hui, l'Europe, les États-Unis, même la Chine, l'Asie, électrique.
Ouais, ils misent là-dessus.
Ils ont mis le paquet là-dessus.
Franchement, moi, j'ai goûté l'électrique, j'ai plus envie de rouler autrement, je le dis. Et d'ailleurs, je pense que je vais en acheter une deuxième.
Ah, mais voilà. Ouais. Comme ça, pourront s'en parler entre elles.
Hein?
Elles pourront parler entre elles.
Elles pourront se parler entre elles. Non, mais c'est vrai, parce que quand tu as goûté ce confort-là,
oui.
En plus, déjà, tu as l'impression, tu dis, je roule propre. Donc ça, déjà, je trouve que c'est cool, tu vois. C'est... Rien que dans la bonne conscience.
Oui.
Voilà. Et ensuite, effectivement, ça fait pas de bruit. Donc c'est une vraie expérience, quoi.
C'est exactement ça. En fait, c'est l'expérience. T'as employé la bonne formule.
Ah ouais.
En règle générale, quand on fait passer un client d'un véhicule thermique à un véhicule électrique, on parle d'expérience électrique. C'est-à-dire, c'est qu'on enlève le vrombissement du moteur, on enlève les vibrations, on enlève tous ces bruits annexes.
C'est clair.
Et quand on monte dedans et qu'on accélère, qu'on se dit, ah, mais c'est ça.
Zéro bruit.
Et les clients... S'ils me font rire des fois, c'est qu'ils se mettent à parler doucement.
Ah ouais.
Ils ont peur de déranger. Ça fait pas de bruit. Ah ben oui. Bon, c'est. Voilà.
Mais c'est vrai que la première fois, t'as l'impression qu'en fait, ta voiture, elle va pas démarrer. Enfin, il te manque un truc. Tu dis, attends, elle fait pas de bruit. C'est pas une voiture, ouais. Ça. Mais c'est impressionnant. Moi, je trouve ça vraiment. C'est l'avenir. Franchement, les voitures électriques, c'est. Moi, je le dis, j'y croyais pas du tout. Mm-hmm. J'y croyais pas du tout. Pour moi, c'était encore un truc qu'on voulait nous vendre. Pareil pour avoir bonne conscience, etc. Et que effectivement c'était faible et que voilà. Mais non, en fait c'est vraiment. En plus, surtout quand on roule en ville, c'est vraiment bien, quoi.
C'est vraiment bien. C'est vraiment adapté. Après, j'entends toujours et j'y répondrai à chaque fois qu'on me posera la question, de dire oui, mais les grandes autonomies. Le premier iPhone.
Ouais, voilà, exactement, c'est ça.
Il n'y avait pas toutes les phases d'évolution qu'ils ont maintenant. Ce qui est normal, c'est que les avancées technologiques se font. Et ce qu'il y a, c'est que les constructeurs ne peuvent pas mettre le paquet financièrement, parce qu'il ne faut surtout pas oublier que les constructeurs, ils cherchent aussi une rentabilité financière.
C'est clair. Ouais.
Dans un marché qui est balbutiant, faut y aller avec précaution.
Exactement. Alors,
l'État aide, c'est quand même le mouvement qui est donné et quand même volontaire.
Favorisant. Ouais, voilà. C'est ça, voilà.
Volontaire.
Ouais, mais c'est vrai que bon, moi, la mienne, elle a pas une autonomie de ouf, hein. J'ai dit 300 km, je crois, un truc comme ça. Mais bon, franchement, ça fait le job pour venir bosser et tout. Et effectivement, comme je disais, l'expérience voilà, l'expérience dans la voiture, elle a rien à voir. Déjà, je trouve que, en fait, maintenant, ça me fatigue de prendre une voiture normale qui fait du bruit. Non, mais vraiment, hein, ça me fatigue.
Ouais, c'est pas pareil. Après, on en prend, mais t'as entièrement raison, on en prend très très vite l'habitude d'avoir un véhicule silencieux et tout feutré. Le véhicule thermique, il restera toujours par les passionnés, les moteurs nobles, les 6 cylindres, les 8 cylindres. Enfin, voilà, cette gamme-là, elle restera toujours. Après, le véhicule. Boulot maison. En fait, moi, si j'avais à donner une cible au client en disant, ouais, vous pouvez vous poser la question, c'est vraiment ce véhicule basique boulot client. Boulot maison,
ouais, boulot maison. Non, mais c'est vrai, quand t'as besoin de, tu vois, de rentrer pépère, que tu viens de passer une journée de travail qui t'a mis la tête grosse comme ça, bah, t'es dans ta voiture. Mais moi, j'ai déjà l'impression de me reposer quand je rentre dans ma. Non, mais c'est vrai. Hein. Moi, je suis choquée. Hein. Je vous le dis.
Faudrait que ce soit remboursé par la Sécu.
C'est clair. Franchement, ça devrait même être prescrit.
Non, mais c'est. Comment dire, pour faire la boucle sur les véhicules thermiques, c'est qu'il y a toujours des personnes qui vont vous dire « Mais non, mais c'est pas possible, on n'ira pas au bout. » Ben si, c'est acté.
On a 10 ans là, en fait.
Ouais, ça sert à rien de vouloir se montrer révisionniste là-dessus. C'est acté. Par contre, il vaut mieux à se dire « Ok, ben moi, ma stratégie, elle est d'acheter la dernière.
Ouais. »
Comme ça, je tiendrai le plus longtemps possible. Why not ? C'est déjà arrivé avec les diesels.
Ouais. Oui, c'est vrai.
De moins en moins de diesel, on a des clients qui nous sollicitent en disant « Moi, je veux la dernière diesel, comme ça, je sais que j'ai 10 ans de diesel devant moi. » Ben oui, c'est une stratégie, pourquoi pas. Mais après, il faut prendre le train en marche. Aujourd'hui, ça va dans ce sens-là, les technologies vont évoluer sans que les gens s'en aperçoivent. Mais en fait, les véhicules thermiques ont déjà baissé l'autonomie. C'est-à-dire que petit à petit, les leviers qui étaient actionnés par les constructeurs, c'était de baisser le volume des réservoirs. Donc en fin de compte, on a nos véhicules thermiques, ils ont déjà baissé de capacité d'autonomie. Donc les véhicules essence, diesel ont baissé l'autonomie, les véhicules électriques montent en autonomie, ce qui fait que si on a vraiment regardé sur les véhicules grande capacité, grosso modo, on n'est pas loin. Hein.
Sous question, alors du coup, quel est l'avenir ? En termes d'automobile, puisque la question des moteurs thermiques, tu l'as réglée. Pour toi, c'est quoi l'avenir ?
Moi, je pense que l'avenir, il n'est pas aussi tranché en disant 100% électrique. Je pense que l'avenir, aujourd'hui, il est sur une stratégie là où l'énergie avait un coût gérable. En l'occurrence, l'électricité avait un coût gérable.
C'est clair.
Hors crise ukrainienne et tout ce qui s'en suit. Donc, ils sont partis sur cette stratégie-là en se disant, c'est du revolving. C'est-à-dire qu'on peut à chaque fois recharger. Il n'y a pas cette phase de consommation où on consomme et ça n'existe plus. On recharge. Aujourd'hui, il y aura d'autres choses. Clairement, j'ai pas ma boule de cristal, mais il y aura d'autres choses. Il y a tellement de constructeurs.
Ce que tu nous as dit sur les Allemands.
Des carburants de synthèse. Ouais. Alors, gasoil ou essence, mais disons carburant de synthèse. Et l'hydrogène. L'hydrogène est quand même aujourd'hui une énergie qui serait facilement transportable. Le souci, encore une fois, c'est que quand on change de méthode d'énergie, on l'a bien vu avec l'électrique, c'est que la question se pose de moins en moins, c'est les bornes. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est que quand on va prendre une stratégie, on est obligé, si on veut de la cohérence, il faut aller au bout de cette stratégie-là. Donc la stratégie a été prise en électrique, pour des raisons bonnes, mauvaises, électriques. il faut aller au bout de cette stratégie-là, de manière à ce que le consommateur puisse se réparer la voiture, se l'entretenir, et la recharger. Là, aujourd'hui, l'hydrogène, why not ? On a déjà eu le problème avec le problème, sans être un problème, avec le GPL. Fut un temps, c'était une grande mode, mais on voyait bien que pour faire son plein de GPL, c'était telle station et pas telle station. Oui. C'était déjà un peu du mapping à l'époque, savoir où je peux y aller, où je peux pas y aller, qui peut me l'entretenir, qui peut me la réparer. Enfin, moi, j'ai connu cette phase-là où c'était pas fastoche. Et beaucoup de clients, même si c'est économique, l'ont abandonné parce que c'était un casse-tête.
Je suis pas conspirationniste, mais j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il fut un temps, il y avait un mec qui avait trouvé un truc pour des voitures qui pourraient rouler à l'eau.
Oui.
C'est faux, ça ?
Non, c'est vrai.
C'est vrai ? Et pourquoi l'ont jamais fait, alors ? C'est vrai, une voiture qui pourrait rouler à l'eau, c'était vrai ?
C'est, comment dire, alors, c'était sur une DS, si je ne m'abuse, Citroën DS. Donc un chercheur, un savant, quelqu'un qui avait des grandes compétences, a réussi, oui, en effet, à faire une forme d'alambic au niveau du compartiment moteur, de manière à distiller, à séparer. En fait, on revient quand même à quelque chose qui correspond aujourd'hui à notre hydrogène. Donc, sauf que la personne avait miniaturisé et intégré au véhicule. Sécuritairement, au secours, si vous avez un choc avant avec une espèce de mini alambic dans le capot, fuyez.
D'accord, ok. Ok, c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait.
Ouais, et après, en effet, je reprends ton propos conspirationniste, c'est comment l'État arrive à prendre son impôt sur de l'eau.
Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ouais. Donc il y avait une question de sécurité et puis une question de rendement aussi. Certainement.
Voilà. Mais après, bon.
Donc c'était pas faux, c'est sympa. Non, ça a bien expliqué. C'est précis en plus.
Clairement, ça a bien existé. Les brevets sont déposés. Après, tout brevet déposé, tous les projets concours Lépine ne sortent pas une distribution commerciale. C'est que ça peut exister, on peut se dire waouh, ça marche, mais pour autant, c'est pas rentable ou pour autant, c'est pas sécuritaire, donc on peut pas le distribuer.
Ouais. D'accord.
Voilà le
pourquoi. Bon, c'était sympa, cette chronique, encore le rendez-vous de l'auto avec Christophe Pérou. Et d'ailleurs, d'ici quelques temps, on vous proposera une déloc, une émission spéciale qui sera diffusée un samedi matin.
Très bien.
Avec Christophe et des invités à toi. À très vite.
À très vite, merci beaucoup.
Et les amis, on se retrouve, nous, juste après le top de la musique. On poursuit la matinale tous ensemble sur Radio Bulle, rythme la journée.